France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, la colère de la France, l'Australie déchire un contrat à 56 milliards d'euros pour les sous-marins tricolores et choisit les États-Unis. Jean-Yves Le Drian, très fâché.
C'est vraiment en bon français un coup dans le dos.
C'est un coup à la Trump, dit encore à Joe Biden, le patron du Quai d'Orsay. Plus que jamais, la priorité stratégique de Washington, Londres et de l'Australie, c'est de contrer la Chine. Lecture diplomatique avec l'invité du journal de 13h. Une humiliation et une bonne nouvelle. Voilà le terme employé pour la diplomatie française. Les soldats de Barkhane ont éliminé le numéro 1 du groupe État islamique au Sahel. Nous verrons cela avec Claude Guibal. Voilà des sujets de discussion avec les partenaires européens. Angela Merkel, reçue ce soir à l'Elysée. Dernière visite avant son départ de la chancellerie. Angela Merkel, vos questions sur cette dirigeante hors norme et ses relations avec la France, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. À 13h30, l'universitaire Hélène Miard de la Croix est notre invitée. Dans l'actualité encore, 3000 suspensions après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale. Une candidate de plus à la présidentielle à gauche, Nathalie Arthaud, et la place Stanislas à Nancy, monument préféré des Français. Vos rendez-vous dans le 13-14, le vif de l'histoire, les 40 ans de l'abolition de la peine de mort, le feuilleton sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame et JP Nataf avec Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
En près de 10 ans à la tête du ministère de la Défense puis des Affaires étrangères, on n'avait jamais vu Jean-Yves Le Drian employer des mots aussi peu diplomatiques. La France vient de perdre un contrat de 56 milliards d'euros. Il avait été annoncé en 2016 avec l'Australie pour 12 sous-marins, entre autres. Mais les temps diplomatiques ont changé. L'Australie laisse tomber la France au profit d'un partenariat avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. La ministre de la Défense, Florence Parly, affirme qu'elle n'a eu connaissance du revirement qui hier. Son collègue du Quai d'Orsay parle de coup dans le dos, vous l'avez entendu en titre, et il enchaîne.
Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui en colère. Ça ne se fait pas entre alliés. En plus, quand il y a eu d'abord 2 ans de négociations pour ce contrat. C'est un contrat qui allait sur une durée de 50 ans et qui a été établi après une analyse géopolitique de la situation dans laquelle se trouve l'Australie, et donc qui prenait en compte les contraintes. Nous commencions les études, de manière d'ailleurs assez intensive, pour la production du premier sous-marin qui devait arriver vers 2023, avec à la fois des équipes à Cherbourg. Il y a en ce moment des Australiens qui travaillent, des ingénieurs australiens qui travaillent à Cherbourg, avec des équipes à Adélaïde, des personnels de Naval Group qui travaillent à Adélaïde. Et puis voilà, pof, brutalement, tout d'un coup, non. Ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain. Parce que cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. Mais ça ne se fait pas entre alliés.
Jean-Yves Le Drian sur France Info ce matin avec Marc Fauvel et Salia Brakia. Il dit encore qu'il va falloir que l'Australie explique comment elle sort du contrat. La presse australienne évalue les pénalités à 250 millions d'euros. Bonjour Philippe Lecor.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à la Harvard Kennedy School, chercheur associé également à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Quelle lecture faites-vous de cet épisode diplomatique ?
Écoutez, c'est le retour de l'alliance anglo-saxonne entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Il y a également le Canada et la Nouvelle-Zélande. Vous connaissez les fameux Five Eyes, les cinq yeux, les cinq services de renseignement qui collaborent depuis très longtemps en Asie et dans le monde. Je crois que l'annonce de ce triumvirat, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, symbolise un nouveau départ pour l'administration américaine, l'administration Biden, qui a essuyé sans doute quelques déconvenues avec les Européens. Vous vous souvenez peut-être de l'accord sino-européen sur les investissements qui avait été signé en décembre dernier sous la présidence de Madame Merkel. Oui. Mais je crois que, comme le disait votre journaliste, c'est surtout la question de la montée en puissance de la Chine en Asie-Pacifique, en Indo-Pacifique, comme on dit, qui justifie ce changement de braquet de la part des Australiens qui sont prêts effectivement à sacrifier la relation avec la France, qui est pourtant une puissance régionale avec un territoire maritime très important en Indo-Pacifique, pour un rapprochement avec l'Amérique. Face à une Chine de plus en plus agressive, de plus en plus revancharde, qui a pris notamment l'Australie pour cible, en tout cas cible idéologique, à défaut d'être une cible militaire.
Philippe Lecor, on entendait à l'instant Jean-Yves Le Drian dire à Joe Biden, c'est du Trump, c'est une méthode à la Trump. On reste sur le souvenir très récent du départ d'Afghanistan des Américains. Ça veut dire que les États-Unis, finalement, sont des alliés pas plus fiables qu'à l'époque Trump ?
Ben, vous savez, l'équipe qui entoure le président Biden et qui s'occupe notamment des questions asiatiques, Kurt Kahn, et des gens comme ça, qui sont vraiment des experts de la région, ne sont pas connus pour être des europhiles et ne s'intéressent aux relations transatlantiques que quand elles peuvent leur servir. Ce n'est pas forcément le cas d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État, mais à l'évidence, ce n'est pas lui qui est à la manœuvre dans cette affaire. Je pense que l'Amérique se préoccupe de son pouvoir central en Indo-Pacifique, qui est la région qui est le cœur névralgique du monde, en termes commerciaux, en termes stratégiques, en termes diplomatiques également. Et il y a une rivalité très claire entre la Chine et les États-Unis en Asie. Et ce n'est pas malheureusement la France qui va venir au secours de l'Australie en cas de crise militaire dans cette région. Donc je crois que l'Australie a fait un choix purement égoïste, mais qui est justifié par sa situation géographique.
Philippe Lecor, restez avec nous. Je voudrais vous soumettre les échos de cette affaire en Grande-Bretagne, quelques mois après le Brexit. Voici le récit du correspondant de France Inter à Londres, Richard Place.
Au côté même virtuel de Scott Morrison, le Premier ministre australien, et surtout de Joe Biden, Boris Johnson jubilait à son pupitre. Hier soir, les trois hommes ont soigné leur annonce, se succédant par écran interposé. Le Premier ministre britannique veut nouer des partenariats commerciaux, c'est vital depuis le Brexit. Alors chaque rapprochement avec des mastodontes comme les États-Unis est une victoire. En plus, aux dépens de la France, il y a de quoi réjouir les Brexiteurs. Quand Jean-Yves Le Drian parle d'un coup dans le dos sur France Info ce matin, Ben Wallace, le ministre de la Défense, lui répond sur BBC 4.
Ce n'est pas une trahison. Je comprends très bien la déception des Français, mais il n'y a eu aucun coup en douce. C'est une décision des Australiens. La France et la Grande-Bretagne sont des partenaires incroyablement importants, pas seulement en Europe. Nous sommes d'accord sur tellement de points, comme l'antiterrorisme en Afrique, en Syrie, sur la cybermenace. Ça continuera.
Le Royaume-Uni a aussitôt mis en avant les retombées économiques d'un tel accord, annonçant des commandes et des emplois dans le nord de l'Angleterre et en Écosse, sans plus de précision, des régions justement où la majorité doit encore séduire et conquérir.
Philippe Lecor, chercheur à la Harvard Kennedy School, vous êtes toujours avec nous. Après le Brexit, c'est un coup fumant pour Boris Johnson qui veut montrer que le Royaume-Uni pèse encore, qu'il est l'allié privilégié des États-Unis.
Vous savez, il y a 5 ans, le Royaume-Uni se présentait comme le meilleur allié de la Chine, donc on n'y comprend pas grand-chose. C'était la Golden Era, les noces quasiment entre Pékin et Londres. Donc aujourd'hui, effectivement, le Royaume-Uni, qui a terminé la période Brexit, cherche des partenariats, et c'est un petit peu une divine surprise de retrouver l'alliance avec les États-Unis et avec l'Australie. Par ailleurs, je constate que lorsque je parle de cela avec des anglo-saxons, on me dit business is business, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une alliance entre ces pays, qui est une alliance, comme je disais, dans le domaine stratégique, dans le domaine du renseignement et dans le domaine économique. Et donc, c'est la conclusion de cette alliance. Par ailleurs, les Australiens auraient quelques griefs à l'égard de la France sur le déroulé des étapes dans la mise en place de ce contrat de sous-marin. Donc je pense que les torts sont peut-être un peu partagés, mais effectivement, du côté britannique, il y a un certain cynisme de Boris Johnson qui n'a pas brillé par ses initiatives diplomatiques et stratégiques depuis qu'il est au 10 Downing Street. Donc je pense qu'effectivement, la Maison-Blanche est en train de mettre en place son alliance démocratique. Malheureusement, elle se fait aux dépens de l'Union européenne, puisque l'Union européenne vient de lancer une stratégie indo-pacifique il y a à peine 2 jours, et que cette stratégie est d'une certaine manière morte-née.
Philippe Lecor, en quelques mots, dernière question. Manifestement, la Chine a reçu le message. Elle dénonce ce matin la vente extrêmement irresponsable de sous-marins américains à l'Australie. La Chine a compris que tout ça était dirigé vers elle.
Oui, la Chine, de toute façon, vous savez, la relation sino-américaine est au plus bas. Le président Xi Jinping a refusé de rencontrer son homologue américain, ce qui est jamais vu il y a quelques jours lors d'une conversation téléphonique. Et donc, tout ce qui est contre elle et tout ce qui constitue une alliance de ces démocraties, et en particulier anglo-saxonnes, dans la région, est considéré comme une attaque directe contre sa montée en puissance, contre sa présence dans la région, qui est effectivement de plus en plus forte.
Merci Philippe Lecor d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Alors, est-ce totalement fortuit, le même jour, le jour où l'on annonce cette rupture de contrat, la diplomatie française parle aussi de ce qui est présenté comme un succès majeur. Le chef du groupe État islamique au Grand Sahara, autrement dit au Sahel, a été tué par les forces françaises il y a quelques semaines. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
L'État islamique désigné ennemi numéro un par la France au Sahel, en éliminant son chef, l'armée frappe effectivement un grand coup.
Oui, effectivement, parce qu'en quelques années, le IGS, qui compte plusieurs milliers de combattants, a pris une importance grandissante en concurrençant Al-Qaïda dans la zone des trois frontières, mais aussi en élargissant la zone d'influence djihadiste vers le sud et le Niger. Le IGS fait partie de l'ISWAP, c'est la branche de l'État islamique pour l'Afrique de l'Ouest, dans lequel évolue une faction influente de Boko Haram. Et l'an dernier, le IGS a quasiment doublé ses opérations, presque 500 attaques, dont l'assassinat au Niger des 6 humanitaires français d'Acted et leur guide nigérien, assassinat directement commandité par Abu Walid al-Sahraoui.
Alors, ce n'est pas la première fois, Claude, qu'on annonce la liquidation d'un haut responsable djihadiste. Ça déstabilise réellement ces groupes?
En fait, Bruno, ça les désorganise sur le moment, mais en fait, ces groupes ont appris à se renouveler pour survivre, et lorsque les chefs tombent, ils sont vite remplacés. L'efficacité de ces frappes, en fait, va au-delà. En l'espace de quelques mois, le numéro 3, le numéro 2, et maintenant, le numéro 1 de l'IGS ont été tués. Cela montre l'efficacité du renseignement. Cela montre que certains peuvent trahir, peuvent dire où sont cachés les chefs. Le premier cercle de confiance n'est plus sûr et ça déstabilise. Et puis, il y a les conséquences sur la relation avec Al-Qaïda. La rivalité entre groupes djihadistes est contenue tant que la première génération des leaders, si vous voulez, était encore aux commandes. Ce sont des hommes qui avaient combattu ensemble. Après l'élimination l'an dernier d'Abdelmalek Droukdel, le chef d'ACMI, c'est donc un nouveau djihadiste historique qui vient d'être tué. La génération qui suit n'a pas cette historique commun et la guerre ouverte entre djihadistes risque donc de flamber. C'est bien un des buts recherchés.
Merci Claude Guibal. L'actualité internationale, c'est aussi Angela Merkel reçue ce soir à l'Elysée après 16 ans au pouvoir avant de quitter la chancellerie. Vos questions sur Angela Merkel, ce sera avec notre invité à 13h30, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Le taux d'incidence du virus de la Covid est passé sous les 100 en France. Indéniablement, la situation s'améliore. Emmanuel Macron, déplacement ce matin à Paris aux rencontres de l'Union des entreprises de proximité. Il reconnaît que le pass sanitaire était une alternative à l'obligation de vaccin et il annonce que les contraintes seront bientôt levées là où le virus circule moins vite.
Je vais vous dire, le premier qui voudrait se passer du pass sanitaire est devant vous. Si on peut demain arrêter le pass sanitaire, je suis le plus heureux des hommes. Est-ce que on pourra se passer dans 15 jours, 3 semaines du pass sanitaire? Non, parce qu'il y a des territoires qui en auront encore besoin. On va le conserver, si je puis dire, dans la poche, pour éviter partout la fermeture qui est la pire des choses. Mais dès que les conditions sanitaires le permettront, et à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard, permettre, sur les territoires où le virus circule moins vite, de lever certaines contraintes et de revivre normalement.
Hier, l'obligation vaccinale est entrée en vigueur pour près de 3 millions de personnes, des pompiers aux fonctionnaires à l'hôpital, en passant par les soignants libéraux, les salariés des maisons de retraite et les aides à domicile. Et 3 000 suspensions et quelques dizaines de démissions ont été enregistrées depuis hier. C'est ce que dit Olivier Véran, le ministre de la Santé. 3 000 donc, voici une déclinaison locale. Le centre hospitalier de Niort, 3 486 agents, 135 n'ont pas remis d'attestation, 12 sont suspendus. Quel profil? Quelles conséquences? Réponse d'Isabelle Ferreira, la directrice générale adjointe de l'hôpital.
Dans ces 12 personnes, alors j'ai des infirmiers, des manipulateurs en électroradiologie, une aide-soignante, technicien de laboratoire, agent hospitalier, du personnel administratif, du personnel ouvrier et une psychologue. C'est des suspensions sans salaire, donc les gens sont sans traitement. Leur carrière est figée, ils ne cotisent plus pour la retraite et ils ne peuvent plus non plus avancer dans la carrière. S'il doit y avoir d'autres suspensions, nous n'hésiterons pas à en faire part à notre ARS si ça doit mettre en difficulté la continuité du service. Là, ce n'est pas le cas, mais si par exemple j'ai 6 suspensions dans un seul service, ça va être très difficile.
Propos recueillis par nos collègues de France Bleu Poitou. Il y aura peut-être 2 candidats écologistes à la présidentielle, alors que le premier tour de la primaire écolo s'est ouvert ce matin en ligne. En dehors de cette primaire, Antoine Vacheteur se lance. Obtiendra-t-il ses 500 signatures? Il y a échoué à deux reprises après une première candidature en 1988. Il dénonce l'ancrage à gauche de la primaire écolo et plaide pour un maintien du nucléaire dans le mix énergétique et l'arrêt de la multiplication des éoliennes. La primaire écolo jusqu'à dimanche 17h, 120 000 électeurs inscrits, 5 candidats, Yannick Jadot, Éric Piolle, Sandrine Rousseau, Delphine Batho et Jean-Marc Governatori. Et à gauche, les postulants à l'Élysée se multiplient. Après Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo et un ou une écologiste donc, Nathalie Arthaud se lance pour lutte ouvrière. C'est officiel depuis ce matin. Elle se lance pour les travailleurs, en particulier ceux qui ont souffert pendant la pandémie.
Cette crise sanitaire, c'est le monde du travail qui l'a prise de plein fouet. C'est d'abord lui qui en a été victime. Et c'est lui aussi qui a fait face, qui est allé au front. Il y a, après une pandémie qui a duré 2 ans, qui s'est greffée à une crise économique et sociale, toujours plus d'argent à un pôle. Les cours boursiers crèvent les plafonds, les profits sont au beau fixe, et tout ça, ça s'est fait sur le dos des travailleurs. Ça s'est fait avec des aggravations de cadence, ça s'est fait avec des suppressions d'emplois, ça s'est fait avec plus de précarité. Alors, moi je le dis au monde du travail, si on ne veut plus être les éternels sacrifiés, si on n'accepte plus qu'une minorité s'enrichisse de façon exorbitante sur le dos du monde du travail, eh bien il faut se battre, il faut renouer avec les luttes collectives, il faut renouer avec les grèves, avec les mobilisations, avec la rue.
Propos recueillis par Antoine Gignot, Nathalie Arthaud, candidate. Donc, Christiane Taubira, en revanche, n'ira pas. Elle était l'invitée de France Inter ce matin. Pas candidate ni au sein d'un parti, ni en dehors d'un parti. Elle le dit très vivement, elle ne veut pas ajouter à l'éparpillement à gauche.
L'enjeu est colossal et c'est pour ça que la gauche ne peut pas se permettre de perdre cette élection et que je ne peux pas aller justement, gentiment, m'aligner en tant que 7e ou 8e candidate de la gauche. L'enjeu est colossal parce que la société a été travaillée ces 20 dernières années par des idées d'exclusion, par une xénophobie tranquille. Le pays reste calme alors qu'on écrase la jeunesse de ce pays, alors que nous savons que le danger climatique ne peut pas attendre, que nous savons que l'injustice sociale, ça produit de la colère, de la rage. Et je ne critique pas celles et ceux qui sont candidates et candidats. Je dis que moi, face à cela, je ne peux pas juste m'amuser. On ne peut pas se permettre de jouer. On ne peut pas se permettre.
Et Christiane Taubira ce matin avec Nicolas Demorand et Léa Salamé sur France Inter. L'interview est à réécouter en intégralité sur franceinter.fr. À droite, c'est à la fin de la semaine prochaine, le 25, qu'on saura si on se dirige vers une primaire ou un congrès pour désigner le candidat. Quelle que soit la couleur politique, les états-majors se préparent, vous l'aurez remarqué, et ils anticipent une campagne où le risque de piratage et autres attaques informatiques est important. Alors, quelles mesures pour contrer ce risque? Tour d'horizon avec Élodie Forêt.
Agir aujourd'hui pour éviter les déboires en mars, c'est le message qu'adresse au candidat Jérôme Bilois, expert en cybersécurité et co-auteur d'une note sur la présidentielle.
Parce que c'est maintenant que les attaquants commencent à se prépositionner dans les systèmes. Ils vont commencer à essayer d'entrer sur les téléphones, sur les boîtes mail, et puis rester silencieux pendant plusieurs mois, potentiellement capturer des informations et les révéler, on le sait, toujours plus tôt vers la fin de la campagne, là où les effets néfastes seront les plus forts.
Responsable du pôle numérique à la France Insoumise, Gilles Maudroyer confirme, c'est aujourd'hui qu'il ne faut laisser aucune brèche. Alors comment se protéger au mieux? Au RN, une source nous indique l'abandon de la messagerie WhatsApp, pas assez sûr, serait aussi envisagé d'acheter quelques téléphones cryptés ou très sécurisés. Jérôme Bilois conseille lui en priorité de trouver un monsieur cybersécurité. À La République En Marche, ce sera Christian Bombrin, ex-directeur des produits et services d'Orange. LREM, qui sous l'égide de Mounir Majoubi, organise aussi des formations pour ses salariés, des stress tests notamment. On envoie un mail vérolé pour voir comment l'équipe réagit. Empêcher le loup d'entrer dans la bergerie et tenter d'éviter un nouveau Macron Leaks.
Les Macron Leaks, c'était la fuite de milliers de documents électroniques à la toute fin de la campagne de 2017. Emmanuel Macron, on l'entendait tout à l'heure dans le journal, à nouveau en déplacement. Aujourd'hui, il participe aux rencontres de l'Union des entreprises de proximité à Paris. Et à chaque jour, une annonce. Cette fois-ci, c'est l'accès à l'assurance chômage facilité pour les travailleurs indépendants. Il ne sera plus nécessaire d'être passé par une liquidation ou un redressement judiciaire. L'actualité économique, c'est encore la machine Bolloré qui avale tout sur son passage. Après Vivendi, et donc Canal+, le groupe d'édition Editis ou encore Havas, Lagardère, c'est-à-dire Hachette, Europe 1, le JDD, Paris Match. Le groupe Bolloré en est déjà le premier actionnaire. Il en veut plus. Cela devrait passer par une offre publique d'achat sur le groupe. Alors arrêtons-nous avec vous, Laurent Kramer, sur la méthode Bolloré. C'est l'ami qui vous veut du bien. Au départ, il arrive en soutien, presque en sauveur, puis il prend toute la place.
Oui, la méthode Bolloré est presque toujours la même. Une fois la proie sélectionnée, en général, un groupe en difficulté ou en recherche de simples partenariats, Vincent Bolloré arrive tout d'abord à pas feutrer, décroche une place au conseil d'administration, puis monte discrètement au capital en grignotant les actions jusqu'à prendre finalement le contrôle de l'entreprise. Ce fut le cas pour Havas dès 2004, Ubisoft en 2015, Canal+, Vivendi dans l'industrie avec le soudeur Vallourec et Lagardère aujourd'hui. Vincent Bolloré ne gagne pourtant pas à chaque fois, jette l'éponge lorsque sa participation ne lui permet précisément plus de prendre le contrôle ou d'échanger des actions. Ce fut le cas pour Bouygues en 97, pour Orange qu'il souhaitait marier à Canal+, et Vivendi, ou encore très récemment avec M6 et RTL que Vincent Bolloré aurait également souhaité acheter.
LCSA et la Commission européenne auront à se prononcer sur l'opération qui pose des problèmes de concentration dans deux secteurs clés, les médias et l'édition. L'OCDE, qui regroupe une quarantaine de pays plutôt riches, présente chaque année ses regards sur l'éducation. C'est la comparaison des systèmes éducatifs dans les différents pays. Et forcément, le rapport cette année est largement sur le thème « Comment l'école a surmonté ou pas la crise sanitaire ?» Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Spécialiste des questions d'éducation à France Inter. Pour l'OCDE, le maintien des écoles ouvertes le plus possible en France est une particularité et positive, mais cela n'a pas empêché les inégalités de se creuser encore.
Le rapport souligne d'abord la performance de la France. Les élèves ont perdu entre 34 et 49 jours de cours en présentiel selon le niveau. C'est deux fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Mais comme la France était l'un des pays les plus inégalitaires, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Éric Charbonnier est expert de l'OCDE sur les questions d'éducation.
Une partie de la perte d'apprentissage pendant les fermetures d'écoles a été rattrapée au moment de la réouverture. Mais même s'il y a eu un rattrapage, il y a un écart entre les élèves les plus défavorisés et les élèves favorisés qui s'est aggravé. Donc il y a eu, pendant cette période, malgré la volonté de laisser ouvertes les écoles, toujours un impact fort sur les inégalités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de mettre de la remédiation scolaire.
60% des pays de l'OCDE ont mis en place du soutien scolaire. C'est tout l'enjeu des prochains mois et même au-delà.
On peut se poser la question pourquoi ces programmes de remédiation n'étaient pas plus systématiques avant la crise du Covid. Et c'est justement un élément important d'offrir aux élèves les plus en difficulté un enseignement à la carte et des possibilités de rattraper leur retard tout au long de l'année scolaire.
Le rapport incite à poursuivre les réformes en France, les dédoublements de classes, la formation, les revalorisations salariales des enseignants, tout ce qui contribue au bien-être des enseignants, car un professeur heureux, c'est un élève heureux qui apprend mieux, et cela se vérifie dans de nombreux pays.
Et à l'ONU, l'UNICEF appelle à rouvrir les écoles là où ce n'est toujours pas le cas. Elles sont encore fermées dans 17 pays du monde et partiellement rouvertes seulement dans 39 pays. En Afghanistan, la France n'a pas de dialogue politique avec les talibans, affirme le ministre des Affaires étrangères. Passe par l'intermédiaire du Qatar, la France, pour essayer d'évacuer les quelques Français qui doivent encore l'être. Et puis beaucoup d'Afghans aussi, ajoute Jean-Yves Le Drian, qui, par leur combat antérieur, ces hommes et femmes méritent le droit d'asile. Parmi les cibles du pouvoir taliban, il y a les chercheurs. Dans le cadre d'un programme qui s'appelle PAUSE, la France espère pouvoir débloquer une trentaine de dossiers, 30 scientifiques qui pourraient être intégrés dans un laboratoire de recherche ou une université comme 280 autres avant eux. Ce programme est né au moment de la guerre en Syrie. Il a bénéficié à 30 nationalités en tout. Témoignages de chercheurs qui ont fui l'Afghanistan ces dernières années et sont inquiets pour ceux qui restent. Sophie Becherel.
Belghez Jafari est chercheuse en littérature persane. Elle entame sa troisième année à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, l'INALCO.
En fait, j'ai quitté Kaboul dans des conditions très très difficiles, marquées par les attentats suicides.
Elle se tourne alors vers la France, où elle a passé son doctorat et où elle a des contacts. Le programme PAUSE accepte son dossier et lui fournit un visa de travail ainsi qu'un sauf-conduit pour son mari et son fils. Aujourd'hui, elle s'inquiète pour les chercheurs restés à Kaboul.
Je suis en communication constante avec mes collègues, mes amis universitaires afghans et afghanes qui ont dû cacher donc tous leurs livres. Mes collègues femmes, elles n'ont pas pu rentrer au travail. Tout le monde est terrorisé.
Massoud Goulami, jeune ingénieur en génie de l'eau, aujourd'hui en poste à l'université de la Côte d'Azur, confirme « Les talibans ne laissent aucune chance aux musiciens ni aux intellectuels ».
Oui, je pense que les talibans sont contre la recherche scientifique.
Le 26 août, quatre scientifiques ont réussi à atteindre l'université de Saclay où Annick Suzor-Wenner coordonne le programme d'accueil d'étudiants étrangers.
Trois étudiants de master et un professeur qui était un doyen de la faculté de pharmacie de l'université de Kaboul, qui était en grand danger parce qu'il avait vraiment beaucoup travaillé avec le ministère, était même conseiller scientifique du président.
Une trentaine d'autres scientifiques afghans pourraient bénéficier du programme PAUSE, à condition bien sûr qu'ils trouvent un moyen de quitter le pays.
Un programme qui sera pérennisé, a annoncé hier le ministère de la Recherche. Saison terminée ou presque pour le joueur de rugby qui avait tenu des propos racistes à l'encontre d'un adversaire camerounais. Le joueur de Provence rugby Ludovic Radosavljević est suspendu pour 26 semaines. En musique, à la découverte ou redécouverte des femmes compositrices, la pianiste Marie-Catherine Giraud s'est lancée dans la recherche de partitions oubliées et elle en tire un album intitulé Regard de femmes. Au programme, Stéphane Capron, il y a 17 compositrices du 18 au 20e siècle. C'est le patrimoine, ou plutôt un autre mot, et d'autres notes, Stéphane.
Le matrimoine de la musique classique nous réserve encore de belles surprises. Sur l'album, on retrouve des noms connus comme Lili Boulanger, Mel Bonis ou Fanny Mendelssohn, des femmes puissantes à leur époque mais qui sont tombées peu à peu dans l'oubli. Marie-Catherine Giraud leur redonne la place qu'elles méritent.
Les femmes écrivains au 19e ont souvent été obligées de prendre des pseudonymes. Ben, pas tellement les compositrices, elles ont écrit sous leur vrai nom. Bien sûr, elles ont eu du mal. Mais quand même, elles se faisaient entendre même quand elles n'étaient pas des interprètes comme Clara Schumann. Elles avaient une voix, se faisait entendre. Après, peut-être, ça a été un peu oublié, mais je pense que de leur vivant, elles ont eu à bagarrer. Mais par exemple, Louise Farinck, qui était professeure au CNSM, s'est bagarrée et a obtenu d'avoir le même salaire qu'un homme et a enseigné à des hommes.
Parmi les coups de cœur de Marie-Catherine Giraud figure Jeanne Barbillon, morte en 92, à l'âge de 96 ans. Elle laisse une trentaine d'œuvres totalement inexploitées.
Alors ça a vraiment été un coup de foudre, par exemple. Quand j'ai mis les doigts dessus, je me suis dit, là, je tiens effectivement une pépite. Je tiens quelque chose d'étonnant, de rare, de très beau.
Marie-Catherine Giraud espère désormais que ce matrimoine trouve sa place dans les concerts, à côté des hommes compositeurs, toujours majoritaires.
Et l'album « Regard de femme » de Marie-Catherine Giraud est publié sur le label Mirare. Le monument préféré des Français est la place Stanislas à Nancy. C'est ce qui ressort du choix des téléspectateurs, en tout cas, qui ont voté hier sur France 3 lors de l'émission de Stéphane Bern. La place Stan, ses pavés de calcaire clair, ses grilles dorées, ses fontaines, sa statue et les pavillons de style classique qui l'entourent. Tout cela plaît beaucoup aux visiteurs étrangers également, Isabelle Baudrier.
Les mots manquent à ces jeunes flamands qui découvrent la place.
C'est très belle, c'est très joli, oui.
Tak, jak wrażenie sega? Oui, c'est magnifique, oui.
Ça me donne un peu l'air de Versailles.
Une première également pour Alessandro et il est emballé.
C'est vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Et je crois que je retourne ici parce que c'est très joli.
Des passants éblouis.
Quand il y a le soleil, alors ça... Ça illumine.
Et un sentiment d'appartenance.
Magnifique. Non, mais c'est notre place. En plus, on a les origines polonaises, donc on est tous fiers. Et voilà.
La place Stanislas, monument préféré des Français. C'est mérité pour Marie, originaire de Bourgogne.
Tout à fait. On a aussi beaucoup voyagé en France et effectivement, c'est un patrimoine qui doit être reconnu.
Claire, nancéienne, se réjouit elle aussi de cette distinction.
Ouais, c'est bien. C'est bien, ça fait un petit peu de publicité aussi pour Nancy. C'est une belle ville que peu de monde connaisse, donc c'est chouette.
Et on l'entend aussi, la place Stanislas, c'est notre tour Eiffel.
Un reportage Isabelle Baudrier, France Bleu, Lorraine dans un instant, la météo à Nancy et ailleurs.
Construire un monde plus humain, plus solidaire et respectueux de la planète, c'est le combat de Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir.
Ce monde n'est pas une utopie. Nous pouvons tous concrètement contribuer à le faire advenir.
Mais tout cela ne sera possible que par une révolution des consciences.
D'un monde à l'autre, de Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir. Enfin, au livre de poche.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 euros hors taxes par mois? Peut-être. ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée, c'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
France Inter aime
Le Genou d'Aed, le nouveau film de Nadav Lapid. Prix du jury au Festival de Cannes. Confronté à la censure dans son pays, le combat d'un réalisateur pour la liberté d'expression, sa rage et ses tourments. Le Genou d'Aed, un film intime, punk et politique du cinéaste israélien Nadav Lapid, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Éclaircies au nord, averses et orages au sud, c'est inversé par rapport à souvent.
Oui, sur les régions du sud jusqu'au Berry, au sud de l'Alsace, c'est encombré avec des averses et des orages parfois marqués. Sur le littoral du Languedoc, le ciel s'éclaircit tout de même au fil des heures. Et puis plus au nord, un temps calme avec un ciel partagé entre soleil et nuages. C'est sur les plages que le soleil se montre le plus. Les températures, elles sont agréables. 19 degrés à Cherbourg, 21 à Nancy sous les éclaircies, 23 à Paris, à Angers, 24 à Bordeaux, à Grenoble, 26 à Marseille et 30 à Ajaccio. Et puis demain, ça sera une journée assez calme avec des éclaircies après la grisaille du matin.
Merci Élodie Calac. Météo France, dans le quart d'heure qui suit, à partir de maintenant, nous parlons d'Angela Merkel.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Un dernier dîner avant le départ, Emmanuel Macron reçoit Angela Merkel ce soir à l'Élysée, avant les élections allemandes du 26 septembre, dans 10 jours. Elles marqueront la fin des 16 années d'ère Merkel, même si elle restera sans doute quelques semaines de plus à la chancellerie, le temps que la probable coalition qui sortira des urnes se mette en place. Mouti, la maman, donc, s'en va après 16 ans et 4 présidents français. Jacques Chirac lui faisait le baise-main, Nicolas Sarkozy préférait les embrassades. Elle a marché aux côtés de François Hollande au lendemain des attentats de janvier 2015. Et Emmanuel Macron a pris l'habitude de partager un verre de vin blanc avec elle lors des sommets européens. Elle a aussi fermement défendu les intérêts allemands tout au long de ces années. Alors qu'est-ce que le départ annoncé de la femme qui a dominé l'Europe change pour la France? Parmi les candidats à sa succession, lequel offre les meilleures garanties pour la France? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions. Si vous le souhaitez, on peut aussi dire un mot du bilan de la chancelière et de la campagne en Allemagne. Bonjour Hélène Mière de la Croix.
Bonjour.
Professeur d'histoire et de civilisation allemande à la Sorbonne, spécialiste des relations franco-allemandes. Vous avez publié, coécrit avec Andras Wirsching, Ennemi héréditaire, un dialogue franco-allemand. C'est paru chez Fayard. Je voudrais commencer avec la remarque de Pierre. Est-ce que le départ de Merkel n'est pas en partie une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, un peu plus de place et une Allemagne qui se cherchera peut-être un peu les premières semaines?
Alors, il y a une incertitude pour tout le monde, oui. Pour les Allemands bien sûr, pour les Français. Nous sommes finalement très très directement concernés par les choix que vont faire les électeurs allemands. Alors c'est vrai que ça laisse un petit peu de marge de manœuvre au président français. En même temps, comme on sait très bien qu'il faut quelques semaines, plusieurs semaines, quelquefois même plusieurs mois, pour qu'un gouvernement puisse se former à partir d'une nouvelle majorité au sein du Parlement allemand, il y a quelques incertitudes du côté de l'Élysée et c'est un peu compliqué parce que la France, comme vous le savez, commence le 1er janvier. La présidence de l'Union européenne seulement pour 6 mois, ça arrive une fois tous les 13 ans. Donc il faut à Paris essayer d'obtenir dès maintenant quelques indications sur les grandes lignes qu'on va pouvoir lancer en commun, parce qu'il n'y aurait rien de plus dommage que Paris lance des projets et que à Berlin on ne réponde pas et que la main tendue, comme on a déjà connu dans le passé, ne soit pas prise.
Et il est possible que Angela Merkel soit encore aux affaires alors que la France présidera l'Union au début de l'année prochaine?
Ce n'est pas exclu. En 2017, il y a 4 ans, il a fallu de longues semaines de négociations pour d'abord un premier échec de formation d'un gouvernement, notamment avec les Verts et les Libéraux, et jusqu'à ce qu'elle se résigne à l'idée de refaire une grande coalition. Et ça, on avait eu un gouvernement seulement en janvier-février, donc c'est possible. Alors, officiellement, c'est sa dernière visite, oui. Mais on risque de la voir encore un petit peu.
Comment ça se passe dans ces cas-là? Elle expédie les affaires courantes ou elle est pleine au pouvoir et lors des rencontres européennes, elle sera toujours Angela Merkel avec la même assise?
Alors, elle est, tant que un nouveau gouvernement n'est pas formé, qu'un nouveau chancelier, une nouvelle chancelière n'est pas élue par le Bundestag et ne jure pas, ne prête pas serment, c'est elle qui est chef du gouvernement. Et donc, c'est elle qui doit agir. Alors, bien évidemment, elle expédie les affaires courantes au sens où elle va éviter de prendre des décisions radicales. Elle en a fait quelques-unes dans le passé, sa décision de sortir du nucléaire. Je ne pense pas qu'elle nous réserve une surprise de la sorte dans les semaines à venir. Mais en même temps, elle doit agir. C'est-à-dire que si elle se trouve de nouveau confrontée à une situation de crise, comme il y en a eu dans le passé, elle a eu de quoi faire pendant 16 ans, eh bien, elle a les pouvoirs qui sont prévus par la Constitution, avec l'équilibre des pouvoirs de ce pays.
Macron-Merkel, c'est un couple qui a bien fonctionné.
Oui, je crois que c'est un couple qui a bien fonctionné. Au début, c'est un couple qui a un petit peu fait rêver, fait sourire. On ne savait que trop.
Président et la chancelière expérimentée.
Voilà, elle expérimentée, plus âgée, lui fougueux, elle plutôt posée, lui apportant vraisemblablement un petit peu de modération. Et je pense que leur relation a bien fonctionné parce qu'ils se sont tout de suite reconnus quand même comme des animaux politiques, comme des gens de grande intelligence et notamment d'intelligence politique étant capable d'admirer l'autre aussi et de respecter ce qu'il a et ce qui fait sa force. Et je pense que c'est un des nombreux exemples que nous avons dans cette histoire heureuse commune franco-allemande, c'est la capacité à... Alors ce qu'on appelle un couple, c'est arriver à faire travailler harmonieusement les forces, les intérêts et les atouts de chacun. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement d'accord, c'est même très rare qu'on soit d'accord. Et on n'a pas du tout les mêmes intérêts, mais savoir faire, s'enclencher ces intérêts nationaux et ces atouts... C'est ça, je pense, le succès de ce couple franco-allemand comme d'autres auparavant.
Quand on parle de couple franco-allemand, est-ce que pour une personnalité comme Angela Merkel, les relations personnelles entre dirigeants ont de l'importance? Avec son côté réservé, on se dit que c'est secondaire. J'ai commencé par citer quelques images pour le plaisir des images. Les relations personnelles ont de l'importance pour elle, Hélène Maire de la Croix.
Alors, elles ont de l'importance toujours. Elles ont de l'importance toujours parce que ces dirigeants, ces dirigeantes, ils se voient très très régulièrement. Ils se voient aussi quand on ne le sait pas. Enfin, je veux dire, il y a lors des sommets de différents formats en parallèle, il y a des petits déjeuners de travail. Donc ils se fréquente beaucoup, et nécessairement, même si on est dans le très grand sérieux et dans le professionnalisme, il s'établit une relation qui peut être aussi, comme dans tout à fait d'autres métiers, une complicité, lorsqu'on a réussi un coup ensemble, lorsqu'on s'est moqué d'un autre. Et je pense que, bien évidemment, Angela Merkel, on ne la connaît pas comme ça, mais c'est quelqu'un avec qui on peut avoir ce type de complicité. C'est une femme qui a énormément d'humour, qui a un humour assez cassant, comme ça, assez cinglant, et qui sait, en revanche, absolument avoir ce visage impassible et incarner une grande responsabilité et un grand sérieux. Mais je pense que entre quatre yeux, ils s'amusent un peu.
Bon, là où ils ont réussi un coup, ces deux-là, c'est l'été dernier, l'année dernière, le plan de relance pour affronter la crise sanitaire et ses conséquences. C'est vraiment là le couple franco-allemand Macron-Merkel qui a été à l'œuvre pour mettre en place ce bouleversement européen.
Alors, on peut le voir, si vous voulez, de manière fonctionnelle. C'est en effet le couple franco-allemand Merkel-Macron qui se sont retrouvés à un petit déjeuner. Ils ont fait cette proposition. Ils ont réussi à ficeler une proposition française, française et allemande, de 500 milliards d'euros, qui a été reprise par Ursula von der Leyen pour la Commission européenne, et on en a rajouté 250 milliards.
On est passé à 750.
Voilà, on est arrivé à 750 milliards d'un fonds commun pour aider les économies lorsqu'elles vont sortir de la crise sanitaire. Alors, est-ce que ce sont les deux personnalités? Oui, puisque on a des deux côtés, même si en Allemagne on est très horizontal, il y a quand même un phénomène pyramidal. Il n'empêche que l'entourage a bien évidemment joué un rôle important, et autour d'Angela Merkel, ses conseillers, mais aussi le ministre des Finances, c'est-à-dire un des deux candidats à la chancellerie actuellement, qui est Olaf Scholz, ministre des Finances, qui, d'après ce que je sais, aurait aussi beaucoup poussé pour convaincre la chancelière qu'il fallait lâcher sur ce point. Il faut se rappeler aussi la chronologie. A priori, l'Allemagne restait toujours sur sa ligne que l'Union de l'euro, si vous voulez, l'Union monétaire, était réglée par la Banque centrale, et qu'on n'instaurait pas de mesures politiques, de dispositifs politiques d'aide. Or, il y a eu un jugement de la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe qui a mis en garde en disant « Attention, la Banque centrale européenne ne peut pas prendre des décisions politiques ». Je simplifie un petit peu. Et donc, le seul moyen de d'aller au devant, enfin de plutôt de prévoir, enfin aller contre les difficultés que l'on pouvait attendre, était de décider en décision politique, de exceptionnellement, pour le moment c'est exceptionnel, on ne sait pas s'il sera reconduit, mettre en place un système, un dispositif de solidarité, de reconstruction,
de collective, mutualisation
des dettes, voilà. Et des dettes et de financement pour réparer les économies européennes qui auront été secouées par la crise sanitaire.
Jusque-là, elle n'était jamais allée aussi loin. Pour les présidents français, Angela Merkel a longtemps été Madame Non, celle qui disait non lorsqu'ils avaient des intentions, disons, financières ou lyriques à l'égard de l'Europe. Elle était assise sur les intérêts allemands et sur une conception très stricte de l'orthodoxie financière.
Oui, en effet. Alors c'est d'abord, on peut dire, est-ce que c'est Angela Merkel en tant que personne? C'est en tant que chancelière, voilà. En tant que chancelière à la tête d'une coalition avec derrière elle non seulement son propre parti, les chrétiens démocrates, dont une aile est libérale au sens de l'orthodoxie budgétaire, le fameux Schwarz-Null. Hein, beaucoup de gens en Europe ont appris au moins deux mots d'allemand, c'est-à-dire donc ce zéro noir, c'est-à-dire cette règle d'or. Qu'on ne doit pas s'endetter plus, on ne doit pas dépenser plus que ce qu'on a dans son porte-monnaie. C'est une ligne, c'est une idéologie, si l'on veut, c'est une doctrine économique qui nous vient du néolibéralisme, qui est peut-être à la fin de son cycle. Peut-être que la crise sanitaire nous a conduit à la fin de ce cycle, mais il est vrai qu'Angela Merkel a incarné, de par sa position, cette ligne de dire non, il y a un certain nombre de règles qui ont été décidé à Maastricht, à la suite de l'unification de l'Allemagne, et parmi ces règles d'or, même si nous avons accepté l'union bancaire et de nous aider les uns les autres lorsqu'il y a des grosses vagues et de la houle, pour autant, la règle d'or doit être respectée, on ne dépense pas plus que ce que l'on a dans son porte-monnaie.
Remarque de Paul, les hommes et les femmes tentés par la fonction suprême devraient suivre le parcours de Madame Merkel, femme simple, irréprochable, proche de ses citoyens. Ça amène une question, alors qu'elle s'apprête à quitter la chancellerie, elle est encore au-delà des 50% de popularité, quels sont les ressorts de cette popularité?
Alors, il y a les méchants et les gentils. Alors, les méchants vont vous dire...
Oui, commençons par les méchants,
voilà,
c'est plus drôle.
Voilà, les méchants, les critiques vont vous dire... les ressorts de sa popularité, c'est qu'elle a toujours finalement réussi à naviguer en suivant un peu le sens du vent, en sentant monter dans la population la volonté d'arrêter le nucléaire à la suite de Fukushima, les bras ouverts pour les réfugiés, les migrants en 2015, Syrien. Voilà, et qui... Le désir d'instaurer le mariage pour tous, ce contre quoi elle était personnellement
opposée,
ouais. et puis qui allait à l'encontre de la tradition de son parti. Donc d'aucuns vont vous dire elle a toujours surnagé parce qu'elle a parfaitement su slalomer et répondre à une demande. D'autres vous diront non, c'est justement quelque chose de très positif. Ce n'est pas de l'opportunisme, mais au contraire c'est une façon de gouverner que de considérer qu'on est toujours là pour trouver le compromis le plus favorable dans une situation donnée qui peut changer. Et dans les situations qui changent, il y a aussi les forces politiques avec lesquelles elle devait travailler. Il faut se rappeler quand même que pendant les 16 années où elle était au pouvoir, il n'y a eu que 4 années où elle a pu gouverner avec le partenaire favori des chrétiens démocrates, c'est-à-dire les libéraux, et que sinon elle s'est pendant 12 ans trouvée dans une coalition qui va même plus loin que ce qu'était la cohabitation en France, c'est-à-dire au sein même d'un même gouvernement avoir son opposant politique naturel avec lequel elle devait travailler.
Allez, question de Vincent, je vais vous demander de la formuler rapidement, s'il vous plaît, Vincent.
Alors, ça va être très rapide. Donc, ma question est, n'y a-t-il pas une obligation de bonne entente entre le représentant français et le représentant allemand, compte tenu du poids des deux pays? Et s'il n'y a pas entente, l'Union européenne ne fonctionne pas, l'euro est en danger. Donc, qu'il soit de droite ou de gauche, en France ou en Allemagne, ils sont obligés de s'entendre.
Hélène Mire de la Croix, vous avez 15 secondes.
Oui, bien sûr. Ils sont obligés. Alors, il faut. Et d'ailleurs, ils le prennent de manière très sportive. Ils ne le prennent pas comme une contrainte. Ils le savent très bien. Les responsables politiques savent que c'est le partenaire de chaque côté. C'est le partenaire absolument incontournable pour des raisons de poids politique, pour des raisons de poids économique, pour des raisons de présence, de force à l'intérieur de l'Union européenne. Depuis le Brexit, l'importance de l'un pour l'autre est encore accrue.
Encore plus.
Et puis, puis parce qu'il y a, si l'on veut, l'addition des forces de la puissance commerciale à la puissance nucléaire et grande puissance que se dit être toujours la France.
Merci Hélène Mire de la Croix d'être venue dans les studios de France Inter. On avait plein de questions encore à vous poser. On peut vous lire Ennemi héréditaire, un dialogue franco-allemand. C'est paru chez Fayard, coécrit avec Andreas Wirsching. Merci beaucoup. 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
L'abolition de la peine de mort, ne me regardez pas méchamment comme ça. Les 40 ans de l'abolition?
Non, on va parler des plus méchants parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Joseph de Maistre au 19e siècle.
C'est bien noté. À tout de suite, le feuilleton sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame. Et maintenant, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
C'est JP Nataf qui est à votre micro aujourd'hui, le fondateur du groupe Les Innocents. Il sera ce soir au Théâtre de Laval dans le cadre du festival Le Chaînon Manquant.
Et il sera accompagné de 3 autres artistes. Son collègue Bastien Lallemand, guitariste et chanteur lui aussi. Et les dessinateurs de BD Alfred et Charles Berberian, ce concert dessiné, ils l'ont créé l'année dernière à Marseille. Et JP Nataf a très envie que l'expérience s'inscrive dans la durée.
C'est vraiment un tout petit dispositif. C'est 2 mecs avec des feuilles blanches et des pinceaux sur une table et puis 2 mecs qui chantent avec 2 guitares. Mais il y a un truc un peu détonnant là-dedans. C'est un procédé qui est assez magique. C'est assez magique tout à coup déjà pour nous de disparaître un peu derrière autre chose qui se passe, qui est un peu plus grand que nous. Il n'y a pas vraiment besoin de dérouler d'histoire. Il y a une histoire qui se dessine sur un grand écran derrière. Donc la musique devient une sorte de bande-son de cette chose-là. En plus, on a quand même 2 dessinateurs incroyables. Ils sont un peu sur ce qu'évoquent les chansons, mais ils ne sont pas vraiment sur le texte, donc on n'est pas dans l'explicatif. Du coup, on a trouvé un nom, ça s'appelle Tous pour un. C'est un nouveau groupe, en fait.
I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire?
Et c'est la voix de Peggy Lee que JP Nataf a choisi de nous faire écouter, Frédéric.
Avec un titre composé à la fin des années 60, mais que lui-même n'a découvert qu'assez récemment.
Peggy Lee, pour moi, c'était Fever, un peu point barre. Jusqu'à ce que, en vacances, il y a 2 ans, je tombe sur une émission d'une radio qui appartient à cette maison. Une émission spéciale dédiée à Peggy Lee. Et donc, j'apprends des tas de choses. Puis c'est chouette, on est sur la route, je crois qu'on était en Aubrac. Enfin, toutes les conditions étaient requises pour aimer quelque chose. Et à 5 minutes de la fin, il met une dernière chanson. Cette chanson qui s'appelle Is That All There Is?
If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all there is.
Est-ce que c'est tout ce qu'il y a en gros? Et je me dis, tiens, c'est marrant parce que j'ai quand même un âge avancé et ça fait longtemps que les chansons qui m'ont procuré mes premiers émois foudroyants commencent à faire une espèce de gros tas. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est un peu blasé, on commence à avoir son œil de professionnel qui fait que quand j'écoute la radio quelquefois pendant un mois, je trouve pas une chanson à me mettre sous la dent. Et cette chanson, tout à coup, ça m'a rassuré. Je me dis, ah, je peux encore retrouver cet état de tomber complètement amoureux des 4 minutes que je viens de passer avec cette chanson, c'est comme un coup de foudre.
Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be.
Elle a touché quoi chez vous, cette chanson-là?
Cette chanson m'a bouleversé parce que je pense que il y a tous les ingrédients que j'aime. Il y a beaucoup de cabaret, il y a beaucoup de l'époque bénie de l'écriture, c'est-à-dire Cole Porter, Gershwin, ce truc assez classique, Kurt Weill. Il y a un peu de Fellini aussi, c'est une chanson où elle parle. Les couplets, c'est un monologue où elle raconte 4 épisodes de sa vie. Le premier, c'est la maison dans laquelle elle habite qui brûle. Puis elle se dit, ouais, est-ce que c'est si grave que ça, un incendie? Après, elle raconte une soirée au cirque. La soirée se termine, elle dit bah, « Est-ce que c'est que ça, le cirque ?» Et après, elle parle d'une grande histoire d'amour, et puis à la fin, là, il y a la mort qui arrive. Je suis assez fasciné par les gens qui font des sagas de 4 minutes comme ça. Je trouve ça incroyable de pouvoir embrasser de l'enfance au lit de mort en 4 minutes. Puis j'aime ces chansons aussi qui arrivent à être le mal et le remède, c'est-à-dire toutes ces chansons très très tristes. C'est en même temps le meilleur remède à la mélancolie. Il n'y a pas meilleur pansement, quoi.
If that's all
Is That All There Is, Peggy Lee. C'était donc Frédéric Pommier, le choix du chanteur et guitariste JP Nataf.
Que l'on retrouve ce soir sur la scène du théâtre de Laval, festival Chaînon Manquant, avec Bastien Lallemand et les dessinateurs Alfred et Charles Berberian, nom du groupe et nom du spectacle Tous pour Un.
Et un pour tous, Frédéric Pommier revient demain. Le feuilleton, grâce à Rémi Brancato, sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame, le chantier de sécurisation n'est pas encore tout à fait fini, mais certains dans la cathédrale ont déjà commencé la restauration. C'est le cas d'Amélie Strack, que Rémi a rencontrée. Elle est restauratrice de sculptures, pierre et métal, et elle a mené un chantier test de restauration de chapelle dans le déambulatoire.
On a la grille d'entrée devant nous qui donne accès à la chapelle de Saint-Ferdinand, qui est entièrement peinte.
Quelle a été la problématique en découvrant cette chapelle ?
Il y avait un très très fort encrassement, les chapelles n'avaient pas été nettoyées depuis longtemps. Mais il se trouve que l'incendie a contribué à cet encrassement en déposant justement cette poussière de plomb extrêmement volatile et nocive. Donc on a démarré nos travaux en réalisant une aspiration à la source avec des aspirateurs à filtration absolue qui sont spécialisés pour le plomb. Et après, on a commencé cette phase justement de nettoyage par latex et compresse. Et après, à l'enlèvement, donc après 3 jours, 1 semaine, les taux de plomb étaient en dessous des seuils. Il n'y avait plus de problématique de plomb, ça fonctionnait, mais au niveau esthétique, il restait des encrassements persistants. Il y avait énormément de bougies, donc il y avait des dépôts de cire. Donc là, on a réalisé pendant 2 mois un travail de nettoyage par laser. On a une grande chance en tant que restaurateur, c'est qu'on a le résultat de notre travail sous nos yeux. Donc ça, c'est très agréable et c'est gratifiant. On a des photographies avant-après, on voit que c'est tout noir à gauche et parfaitement propre à droite.
Vous avez aussi participé à un grand chantier qu'on appelle le chantier des collections, qui consistait à inventorier le mobilier de Notre-Dame, l'intégralité du mobilier de la cathédrale.
Exactement. Il faut vider la cathédrale, libérer les espaces et surtout ne rien perdre.
On va changer de lieu justement pour se rendre compte de l'ampleur de ce chantier. Où va-t-on, Amélie ?
Alors je vous emmène dans les tribunes nord, où vous allez observer une bonne partie du lapidaire. C'est du mobilier en pierre qui a été déposé suite à différents travaux sur les façades.
On va prendre un escalier près de la façade nord.
Il va nous emmener dans les tribunes. Vous voyez déjà des énormes toiles dressées. Et en fait, ce sont des sculptures emballées avec des toiles de lin. Ces œuvres étaient dans des caisses en bois. Et c'est ce qui leur a causé le plus de préjudice, puisque c'est la caisse qui a brûlé. Comme ce sont des plâtres, il y avait des bulles d'air à l'intérieur du matériau. L'air à l'intérieur de ce support a fait éclater la surface et des fragments étaient tombés. Donc nous, on a recollé ces fragments pour qu'ils ne soient pas perdus, justement.
Où se trouvaient ces sculptures ?
Ici, dans les tribunes. Je vous emmène dans la galerie à l'intérieur des tribunes.
Qu'est-ce qu'on a sous les yeux très concrètement ? C'est un spectacle assez étonnant.
Donc c'est toute la collection lapidaire, une partie de la collection de lapidaire. Et donc c'est des restes de gargouilles, des restes de chapiteaux qu'on a derrière, des fonds baptismaux, des sculptures d'encorbeillement.
Où ces pièces vont-elles partir ?
Alors une grande partie de la collection part à Saint-Vite, dans un dépôt qui a été organisé par Notre-Dame.
C'est au nord de l'Île-de-France.
Peut-être qu'ils reviendront, une fois la cathédrale restaurée, mais peut-être pas. Alors là, c'est une reine. C'est la dernière qu'on a mis en caisse. Là, vous voyez que la partie basse de son corps. Je pense qu'elle doit faire 3 mètres. Et vous aviez énormément de fragments ici au sol. Donc on a essayé de reconstituer le puzzle du corps de cette reine pour pouvoir le mettre en caisse et faciliter justement sa future restauration. C'est là qu'on se sent particulièrement utile. On participe à la connaissance de l'œuvre et du monument en plus. Et surtout, au fait qu'elle ne va pas disparaître.
C'est l'amoureuse des monuments historiques qui parle, là. Qu'est-ce que vous avez appris ici à Notre-Dame ?
On a mis à plat toutes les techniques de la conservation. Au sein de chaque technique, j'ai pu me rapprocher de scientifiques hyper pointus. Et ça, c'est forcément, je me suis enrichie sur plein de sujets différents. Et c'est ça, la richesse de cette rénovation. C'est qu'il y a énormément de moyens. Et du coup, pour nous, c'est pas simplement réaliser une restauration. C'est réaliser la meilleure restauration.
plaisir d'entendre l'enthousiasme de cette restauratrice avec Rémi Brancato, restauratrice de sculpture. Vous trouvez tous les détails, les images et d'autres informations sur franceinter.fr sur ces métiers de Notre-Dame. Dernier épisode du feuilleton demain.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en ce mois de septembre, le 17 septembre 81. Robert Badinter entamait le marathon parlementaire nécessaire à cette réforme. Discours à l'Assemblée nationale. La guillotine, aujourd'hui, Jean, ne subsiste que dans les expositions.
Néanmoins, un musée en expose une en permanence, l'Arche, dans l'archipel lointain de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle n'y a été utilisée qu'une fois, en 1889, pour couper le cou de Louis Néel. Néel et un complice avaient sauvagement assassiné un vieux marin pêcheur, s'acharnant sur son corps, s'attaquant même, Bruno, aux organes de la génération. Enfin, je cite l'acte d'accusation. Néel, condamné à mort, le gouverneur de Saint-Pierre se trouva très embarrassé. Il ne disposait évidemment pas des bois de justice, comme il disait. Qu'à cela ne tienne, la Martinique lui envoya la guillotine qui est aujourd'hui présentée à l'Arche. À l'époque, on n'avait jamais vu un ministre dans l'archipel. Alors le gouverneur écrit au garde des Sceaux « Comment voulez-vous que j'y trouve un bourreau dans un pays où chacun se préoccupe de ce que son voisin pense de ses actes ?» Deux marins pêcheurs finirent cependant par accepter le rôle contre une forte somme d'argent. Le 14 août 1889, ils s'acquittèrent, si je puis dire, de leur tâche. Les spectateurs, pas si nombreux, silencieux, auraient préféré qu'il tranche Néel mieux et plus vite, sans avoir à finir de détacher la tête au couteau, afin qu'elle tombe dans le panier. Et une tradition maintenue à Saint-Pierre et qu'on enseigne aux enfants soutient qu'ensuite, plus personne, plus aucun commerçant n'accepta l'argent des deux exécuteurs et qu'ils durent solliciter leur passage vers la métropole.
Incroyable histoire. La peine de mort, Jean Lebrun, n'est pensable que si un pacte social consenti confie à un bourreau son application.
Alors un texte célèbre au 19e développe cette théorie. On le trouve dans les soirées de Saint-Pétersbourg de Joseph de Maistre, le penseur numéro 1 de la contre-révolution. Première soirée, première édition 1821, Maistre interroge l'étrange fonction du bourreau. Qu'est-ce donc que cet être inexplicable qui a préféré à tous les métiers agréables, lucratifs, honnêtes, celui de tourmenter et de mettre à mort ses semblables ? La justification vulgaire de la peine de mort affirme qu'elle maintient la sécurité matérielle de la société. Non pas, répond Joseph de Maistre, elle la sauve spirituellement parce que le bourreau tient une position essentielle, sacrificielle et symétrique de celle du souverain. Sans bourreau, peut-il y avoir même un souverain ? Baudelaire, qui est comme Maistre, on ne le sait pas, un anti-moderne, renchérira en disant que la peine de mort est le résultat d'une idée mystique.
Et Baudelaire, quand il écrit ceci, est conscient que c'est difficile à comprendre, en témoigne la réflexion qu'a continué de provoquer l'affaire Néel à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Et au-delà, on se souvient du roman et du film « La veuve de Saint-Pierre » qui adapte très librement l'affaire telle qu'elle s'est prosaïquement déroulée. Auprès de ce Néel de fiction veille le capitaine qui en a la garde et surtout la femme du capitaine, Madame La, Juliette Binoche au cinéma. Madame La ne peut se résoudre à accepter qu'un homme soit définitivement mauvais et elle va faire l'impossible pour empêcher que Néel soit exécuté et par amour pour elle, le capitaine la rejoindra dans son effort. Alors il faut dire que ce Néel de papier et de pellicule, avant d'être encouragé dans la dénégation de son sort par ses nouveaux amis, avait dans un premier temps accepté sa peine. Et je reviens à Baudelaire. Baudelaire avait imaginé un condamné que le bourreau avait raté et qui reviendrait de lui-même sur le lieu de son supplice. Et Maistre, de son côté, était arrivé à penser que Louis XVI était allé volontairement au-devant de sa décapitation dans l'espoir de régénérer la France. Alors aujourd'hui, c'est Victor Hugo qui est audible. Victor Hugo qui disait « Si Louis XVI avait aboli la peine de mort comme il avait aboli la torture, sa tête ne serait pas tombée ». Deux conceptions, donc au 19e, défendues concurremment, les fleurs du mal et les fleurs du bien. Baudelaire a répété en vain « Défions-nous du bon sens, du cœur, de l'inspiration, de l'évidence ». Mais c'est Victor Hugo qui l'a emporté. Ses livres sont sortis gagnants, notamment celui qu'il a composé en 1834 pour Claude Gueux, prisonnier de Clairvaux, justement révolté, injustement exécuté. Badinter en a fait un opéra.
Merci Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Dans un instant, la Terre au carré, Mathieu Vidard, 30 ans de lutte indigène en Amazonie. C'est à suivre.